Bonjour, ici Hugo Prévost, le rédacteur en chef de pieuvre.ca. Si vous aimez nos épisodes de podcast, si vous aimez ce qu'on publie sur notre site, je vous invite à nous encourager en vous abonnant à notre page Patreon. Pour seulement 5 $ par mois, ça vous donne accès à une séance de questions-réponses. Ça vous donne également accès à des épisodes en primeur du balado Rembobinage. Et nous, avec votre contribution, ça nous permet de payer nos journalistes, nos pigistes. Ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions. Et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Kevin, comment est ton coréen?
Mon coréen est assez rouillé, pour ne pas dire inexistant.
C'est un peu la même chose pour moi, je te dirais. Mais évidemment, bon, ça ne nous empêche pas de se dire bonjour, bien sûr, de souhaiter, comme toujours, la bienvenue à Rembobinage. On parle de coréen parce que cette semaine, on a écouté un film qui est en fait techniquement un film américain, réalisé par une femme qui vient de Corée du Sud et qui est également canadienne. Donc, on mélange toutes sortes de choses cette semaine. Qu'est-ce qu'on a écouté aujourd'hui, Kevin?
On a écouté le film Past Lives de Céline Song, que, comme tu dis, est née en Corée, elle a immigré au Canada et maintenant elle vit aux États-Unis, exactement comme le personnage central de son film.
Effectivement, ben moi je connais pas Madame Song, c'est son premier long métrage,
oui.
Maintenant que j'ai brièvement parcouru sa fiche chez Wikipédia, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une bonne partie de biographie, en tout cas, un certain aspect biographique certainement dans ce film-là. Past Lives, tu l'as mentionné, est sorti, bon, un peu plus tôt cette année, je pense qu'il est sorti au mois de juin au Québec, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Le film avait été lancé en janvier au festival de Sundance. Il a été présenté aussi à la Berlinale et dans quelques autres festivals. Et c'est ça, il est sorti en salle en juin. Et je crois, dans la dernière semaine, c'est arrivé en vidéo sur demande.
Effectivement. Ben, c'est souvent l'occasion pour nous de revenir sur des films qu'on n'a pas eu l'occasion nécessairement de voir en salle. Comme vous le savez, chers auditeurs, ben, c'est évidemment pas tous les films qui terminent leur course, ou en tout cas qui effectuent une partie de leur course sur des écrans canadiens ou québécois. Donc, heureusement, il y a cette chose parfois merveilleuse qui s'appelle les internets.
Oui. D'habitude, en fin d'épisode, on parle de comment voir le film, mais vu que tu t'abordes le sujet, je vais le dire tout de suite. Le film est sorti en vidéo sur demande, mais il est encore présenté chez nos amis du cinéma du parc. Mm-hmm. Il est encore à l'affiche. Et je crois aussi, comme au cinéma moderne, il est présenté à l'occasion aussi.
Donc, écoutez, si vous voulez vivre l'expérience à l'ancienne, donc ça, avec un pianiste peut-être qui lance pas vrai, il y a personne qui fait la bande sonore au piano. Quand même, on n'est pas à ce point-là. Mais effectivement, tu mentionnais toujours à l'affiche en salle, donc si l'expérience vous intéresse. Bien sûr, évidemment, allez pas faire ça maintenant. On vous invite bien entendu à écouter notre critique. Mais voilà, en fin d'épisode, après avoir écouté l'épisode, si ça vous intéresse, pourrait effectivement vous rendre au cinéma. Past Lives, écoute, si tu veux, je vais essayer de nous résumer un peu l'intrigue.
Oui.
Bon, on l'a mentionné un peu, il est question de Corée du Sud, parce que, bon, évidemment, il n'y a pas question de Corée du Nord dans ce film-là. Corée du Sud, donc, c'est l'histoire de deux jeunes, à l'époque, deux jeunes enfants, deux jeunes pré-ados, j'ai l'impression. Et là, on va certainement massacrer les prénoms aujourd'hui, on s'excuse à l'avance. Donc, on a Hae-sung, qui est à l'époque un jeune garçon, pré-adolescent, et Nora, et là, son nom de famille m'échappe, je le vois pas ici. Mais bref, Nora, donc, qui sont amis, qui sont bons amis à l'école, et éventuellement, les parents de Nora décident de d'émigrer au Canada. Donc, je pense que c'est là, d'ailleurs, qu'on voit un premier clin d'œil, là, la vie de la réalisatrice, parce que, bon, il arrive à Toronto. D'ailleurs, avec un... J'ai un petit sourire en entendant quelque chose. La scène, la brève scène où il arrive à Toronto, où on nous passe un message en anglais d'abord, et ensuite, le message en anglais très court qui dit « Bienvenue à l'aéroport international Pearson de Toronto », mais le message en français est mal traduit. Donc, je me suis dit, ils sont effectivement... au Canada, bienvenue. Donc, c'est ça. Donc, ses parents de Nora émigrent au Canada et donc Nora et Hyesung se perdent de vue. Pendant presque 20 ans, en fait, ils se recontactent à peu près à mi-parcours là, via Skype. Éventuellement, ils se reperdent de vue et donc, en 2022 à peu près, reprennent contact. Et là, c'est une espèce d'histoire d'amitié mêlée d'un peu d'une histoire d'amour. C'est beaucoup, beaucoup dans la subtilité quand même. C'est un film, j'allais dire, c'est un film très asiatique sans vouloir tomber dans le cliché, mais généralement, bon, peut-être on a les deux extrêmes dans le cinéma et la télé asiatique, mais on a d'un certain côté justement des films où il y a question de sentiments et c'est beaucoup, beaucoup dans la douceur, dans la subtilité, dans le non-dit. Et je pense que c'est le cas ici. Donc, effectivement, c'est le récit un peu de cette relation entre nos deux protagonistes là, à travers une vingtaine d'années. Et évidemment, des embranchements là, de carrière, de parcours, d'amour de chaque côté. Dis-moi, est-ce que tu as aimé Past Lives?
J'ai adoré ça. J'avais entendu beaucoup de bien de ce film-là. C'est un des films qui a eu les meilleures critiques de 2023. Donc, j'avais hâte de le voir, puis j'ai pas été déçu, j'ai vraiment été... C'est automatiquement un de mes films préférés de l'année.
Écoute, je trouve que souvent, c'est à double tranchant, les critiques qu'on peut lire avant. Puis bon, ça vaut pour nous aussi, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent avant d'aller voir des films, ou peut-être qui nous lisent sur Pierre, vous peu importe, vous savez comment ça fonctionne. Et là, si on nous dit « Ah oui, c'est horrible, c'est mauvais, faut pas voir ça », je veux dire, j'ai pas vu Morbius parce qu'on m'a dit que c'était un navet fini. Et là, dans ce cas-ci, parce que là, effectivement, j'ai vu des choses dithyrambiques. On dit que c'était un excellent film. Et j'avais peur d'avoir mes attentes, finalement, que mes attentes soient trop élevées. Et je dois dire que autant j'ai trouvé ça très bon tout le long, encore une fois, dans la subtilité, dans la question des plans, la question de la lumière, la question des dialogues, autant je te dirais que ça m'a pris les 15 dernières minutes pour dire « OK, c'est vraiment excellent. Il y a vraiment quelque chose. C'est vraiment à la fin le point d'orgue et ça se conclut. C'était probablement la meilleure façon dont ça pouvait se conclure. Non, j'ai vraiment été... épaté là, de voir la qualité et la finesse de ce film-là. Je sais qu'on, toi et moi, on écoute assez régulièrement, en tout cas, des productions asiatiques, généralement plutôt du côté de l'action. On est des grands fans, évidemment, du Festival Fantasia et tout ça, des films de genre. C'est peut-être moins notre tasse de thé, et sans faire de mauvaises blagues, là, c'est peut-être faire de moins notre tasse de thé, ce genre de film-là. Est-ce que c'est un style que tu connais bien? Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies généralement?
Ben, je suis pas un grand expert en cinéma asiatique. Comme tu dis, j'en vois à l'occasion. Souvent des films de genre, mais aussi des films parfois plus dramatiques, tout ça. Tu mentionnes Fantasia. Même à Fantasia, il y a des films d'arts martiaux, mais il y a aussi des drames tout en subtilité qui sont présentés, que je vois à l'occasion, qui sont... parfois romantique et tout ça. Fait que je suis quand même familier avec ce type de film. Et c'est ça, comme tu disais, c'est vraiment impressionnant la finesse de l'écriture, de la mise en scène, tout ça. Comme un truc que je voulais parler, c'est... tu sais, tu as résumé un peu l'histoire du film. C'est que le film est vraiment en trois parties. On voit les personnages à 12 ans, à 24 ans et à 36 ans. Et mais au début du film, dès la première scène, on voit ce qui est le présent du film, de les personnages adultes à 36 ans qui se retrouvent, qui sont comme dans un bar, le gars, la fille, et aussi le mari de la fille, parce que on apprend plus tard qu'entre-temps, elle s'est mariée avec un Américain.
Oui.
Et c'est ça, après ça, on tombe dans des longs flashbacks, puis c'est quelque chose que moi... j'avais pas vu venir vraiment en voyant la bande-annonce, tout ça, que j'ai vraiment été absorbé par tout ça. Puis là, c'est vraiment à la fin des flashbacks qui durent presque une heure dans un film de genre 1h40, 45,
oui,
que j'ai fait « Wow, OK, c'est vraiment audacieux quand même de... » Tu sais, c'est un film qu'on sait que ça va être un film sur des retrouvailles d'amis d'enfance qui se retrouvent 24 ans plus tard, mais on prend le temps de reculer dans le temps pendant presque une heure pour vraiment bien développer les personnages, pour qu'on comprenne à quel point c'était des super bons amis quand ils étaient enfants. Puis on voit aussi que quand ils étaient jeunes adultes, comme tu disais, ils se sont retrouvés avec Facebook, ils ont Skypé pendant un petit bout de temps, tout ça. Finalement, ils se sont reperdus de vue. Puis tout ça, c'est comme, wow, OK, j'ai vraiment pas vu le temps passer, à part vraiment quand on est arrivé dans le présent. Là, oui, j'ai regardé l'heure, j'ai fait, OK, ça fait presque une heure que le film est commencé, puis on dirait que, tu sais, ça pourrait paraître long, cette mise en place-là, mais moi, j'étais absolument captivé par tout ça, là.
Oui, ben effectivement, la bande-annonce ne laissait pas présager qu'on aurait, comme tu disais, d'aussi longs flashbacks. Et on mentionnait pas du tout cette période-là où ils se retrouvent. Moi, mon impression, c'était que, ils se sont vus quand ils étaient enfants, ils se connaissaient bien. Elle a quitté pour le Canada et ensuite, bon, les États-Unis, parce que là, elle vit à New York. Puis qu'on aurait, c'est ça, ce 20 ans-là de temps perdu. Puis là, on aurait une longue... Oh, pardon, j'accroche mon matériel. On aurait une longue période où on se dit, qu'est-ce que tu as fait pendant 20 ans? Ah oui, je suis allé à telle place, j'ai vu telle personne, s'est passé telle chose. Et en fait, on nous montre largement tout ça dans une espèce d'intervalle. On nous explique les choses. Et donc, finalement, cette séquence du temps présent est assez courte. On a une vingtaine de minutes, trentaine de minutes. Puis bon, là-dedans, il se passe d'autres choses qu'on donnera pas, l'information qu'on donnera pas, parce qu'évidemment, on veut garder le certain mystère, un certain secret. Mais oui, c'est souvent la structure classique, encore une fois, de « Ah, ça fait un quart de siècle qu'on s'est pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai des enfants. Là, la photo. Puis là, son téléphone, dans le temps, c'était dans le portefeuille. La petite photo. Puis là, ah, elle a 6 ans. Elle joue de la clarinette ou quelque chose. » Et là, vraiment, autant là, on garde cette espèce d'idée un peu classique de « OK, on retrouve l'ami d'enfance avec qui on s'entendait bien. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que là, soudainement, la réalité va pas se télescoper, l'espèce d'idéal qu'on s'est construit pendant 20 ans? Tu sais? Est-ce qu'il va y avoir une relation? Puis en plus, elle est mariée. Est-ce qu'elle va quitter son mari? » comment je pourrais dire? Autant c'est pas une idée de briser tous les codes puis de jeter tout par terre puis de se dire je suis une scénariste ou une réalisatrice originale, je sors des sentiers battus, ce qui aurait été tout à fait correct là, mais là on est comme un pied à l'intérieur du sentier, un pied à l'extérieur, on joue avec les codes un peu sans trop bardasser, et je pense que c'est ça qui fait une partie de l'intérêt du film là.
Oui, absolument. Mais tu sais, on revient toujours que c'est en grande partie basé sur une histoire vraie, sur ce que la cinéaste a vécu. Puis je pense que justement, dans la vraie vie, souvent, il n'y a pas tant de gros drames, il n'y a pas tant de trucs spectaculaires. Fait qu'elle, vu qu'elle s'est basée sur ce qu'elle a vécu, parce que justement, en entrevue, elle raconte que elle a immigré de Corée quand elle avait à peu près 12 ans aussi, puis elle a retrouvé un ami d'enfance récemment, dans les dernières années, alors qu'elle est mariée maintenant. Et justement, quand ça s'est passé dans sa vie, elle trouvait ça quand même spécial comme situation. Ça lui a fait vivre plein d'émotions, ça lui a fait réfléchir à des trucs, puis elle a fait « Ah, waouh, il y a un film là-dedans », mais... Elle n'a pas senti le besoin de dire « Ah, ben vu que ça devient un film, on va exagérer, on va ajouter plein de rebondissements. » Non, elle est restée vraiment dans le réalisme de pas mal de... Je comprends que de ce qu'elle avait vécu, dans le fond.
Oui, oui, puis bon, donc ça nous évite des courses-poursuites comme dans Mission Impossible ou des fusillades ou des choses comme ça. Non, je fais des blagues, bien sûr. Mais non, effectivement, on aurait pu avoir quelque chose de plus classique avec la peine d'amour, puis avec le type qui est le mari qui est pas finalement qui est pas une bonne personne, puis là, bon, finalement, elle va voir ailleurs, puis tout ça.
Oui, ben ça, excuse-moi de te couper, mais ça, c'est un gros exemple de la maturité du scénario du film. Oui. C'est que dans un film, une comédie romantique hollywoodienne, c'est sûr que quand il y a un mari dans le portrait, il faut que ça soit une grosse caricature, faut qu'on le déteste automatiquement, faut tout de suite qu'on se dise « Ah, le mari... c'est vraiment un cave. Pourquoi être avec lui? On a vraiment le goût qu'elle retrouve son espèce de petit chum d'enfance, tout ça. » Mais là, dans Past Life, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est vraiment... Il y a pas de méchants dans le film. T'sais, tout le monde, c'est des bonnes personnes. Puis on comprend comment chaque personne se sent, comment chaque personne agit. Puis on les regarde vivre. Puis c'est super émouvant, mais on n'est pas manipulé à travers ça, là.
Mais là, à ce moment-là, comment est-ce que notre personnage principal pourrait quitter son mari insensible et aller s'ouvrir une auberge dans le Vermont juste à temps pour les spéciales de Noël de Netflix, Kevin? Qu'est-ce qu'on va faire?
Ouais, ben c'est ça. Ça se passe pas dans le temps de Noël. Si c'était dans le temps de Noël, tout changerait parce que là, les clichés sortent de partout.
Voilà, exactement. Seigneur. Tantôt, je parlais, je disais, la question des 15 dernières minutes, des 20 dernières minutes. Est-ce que tu es d'accord avec mon avis comme quoi c'est vraiment le point? Parce que, encore une fois, dans ce genre de film-là, d'habitude, il se passe quelque chose à un moment donné, vers un peu la mi-parcours, puis là, le reste du film, c'est la résolution de ce conflit-là. Là, vraiment, la résolution arrive, résolution-ish, en tout cas, je ne veux pas, encore une fois, donner trop de détails, arrive 20 minutes avant le générique. Est-ce que tu t'as jugé toi aussi que c'était vraiment le moment où t'as fait comme « Wow, quel film fantastique vraiment, là, si on a atteint le point central de la patente, là? »
Ah oui, absolument. Parce que c'est ça, la scène du début où que le gars, la fille et le mari de la fille sont ensemble dans un bar, c'est à peu près 20 minutes avant la fin qu'on revient à cette fameuse scène, puis que là, maintenant, on connaît ces personnages-là, puis on comprend c'est quoi leur relation, et c'est vraiment puissant, même si c'est dans la subtilité. Puis c'est ça, j'essaie de rien révéler sur ce qui se passe par la suite,
ouais.
Mais le film est justement quand même imprévisible, peut-être parce qu'on a vu tellement de comédies romantiques hollywoodiennes, on a certaines supposition sur ce qui pourrait se passer, puis on se demande vraiment qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'elle va choisir de rester avec son mari? Est-ce qu'elle va vouloir, au contraire, retrouver son ami d'enfance et vivre quelque chose avec lui? Puis on se demande vraiment, mais encore là, c'est tellement dans la subtilité, c'est tellement mature, c'est tellement en finesse que tout ce qui se passe, il y a rien qu'on est comme « Ah, OK, c'est arrangé avec le gars des vues. » Puis il y a vraiment, ça va être dur d'en parler parce qu'il y a des trucs de mise en scène qui sont vraiment beaux, mais oui. Faut comme expliquer qu'est-ce qui se passe pour le décrire. Mais ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai beaucoup pleuré à la fin. C'est vraiment venu me chercher. Je pense que il y a quelque chose d'un peu quand même universel, même si on n'est pas immigrant, même si on n'est pas coréen. Juste le fait, je pense que tout le monde a des amis d'enfance qu'on a perdus. Tu sais, moi, sans changer de pays, moi, quand j'étais enfant, je vivais à Trois-Rivières, puis ma famille, on a déménagé sur la rive sud de Montréal, puis, tu sais, j'ai en particulier une fille qui était ma meilleure amie quand j'étais enfant, que j'ai perdu de vue à ce moment-là. Dans mon cas, je l'ai jamais revue, je l'ai jamais retrouvée. Et, tu sais, je me dis, tu t'imagines, ah, ça serait quoi aujourd'hui de la retrouver? Puis le concept un peu du film, c'est que c'est pas tant important de « Ah, OK, c'est ton ami d'enfance, c'est ton amour d'enfance, c'est quelque chose que tu veux revivre. » C'est plus aussi comme si c'était une partie de toi-même, parce que dans le fond, n'importe qui, on évolue, on change par rapport à qui on était quand on était enfant. Et si tu retrouves quelqu'un que tu as perdu de vue depuis 20, 30, 40 ans, quelqu'un de ton enfance, c'est comme si tu retrouvais un miroir par rapport à qui t'étais quand t'étais un enfant. Fait que c'est à travers le film Past Lives, c'est un peu les émotions qu'on vit. Ça m'a fait penser à plein de trucs, puis ça m'a rendu vraiment nostalgique puis mélancolique puis tout ça. C'est ça. C'est très émouvant.
Oui, absolument. Puis bon, encore une fois, c'est un champ de mine parce que là, on tourne autour de la fin du film, tout ça, des revirements de situation. Mais quand je disais tout à l'heure, bon, c'était dans la finesse, la subtilité, il y a beaucoup de scènes où les personnages font juste se regarder. Et ils disent pas grand-chose, ils regardent et tu comprends ce qu'ils se disent avec leur regard. Et c'est un peu drôle de dire ça pendant qu'on fait un balado, mais bon. Mais ça, c'est ça. Tu n'as pas besoin d'avoir le monologue, tu n'as pas besoin d'avoir le déchirement. Le déchirement est intérieur. T'sais, tu disais, bon, cette idée-là de retrouver les gens de son enfance, ça fait ressurgir des émotions et des souvenirs. Absolument. Tu dis, bon, ben, j'ai fréquenté quelqu'un. Tu dis, bon, brièvement, tu as fréquenté quelqu'un il y a X nombre d'années quand tu étais bon, jeune adulte ou adolescent. Ça n'a pas fonctionné. Et là, soudainement, tu retombes sur cette personne-là 10 ans, 20 ans plus tard. Ça veut pas dire que soudainement tu vas laisser, tu sais, c'est pas comme si toi t'allais laisser ta femme puis partir, quitter Montréal puis aller. C'est juste que tu vas potentiellement revivre certaines émotions et tu dis bon ben regarde, ces émotions-là existent, ces souvenirs-là existent. Est-ce que ultimement c'est une bonne ou mauvaise chose que toi ça va peut-être te faire de la peine ou peut-être que tu vas dire ben regarde j'ai pris de la maturité depuis ce temps-là, bon je passe à autre chose puis c'est normal que ces souvenirs-là existent, mais maintenant, on a tourné la page. Comme tu disais, ça suscite toutes sortes de réflexions, ce film-là. Et dans ce sens-là, bon, c'est pour ça que c'est bien fait. Et quelque chose aussi que j'ai beaucoup aimé, et tu me connais, je suis un gars assez techno, et j'ai pas besoin que mes films soient réaliste à 100%. Je veux dire, on aime Star Wars, là, il y a du bruit dans l'espace. Mais j'ai beaucoup aimé que dans le film, dans Past Lives, il utilise des technologies de l'époque. Quand il se parle, quand à peu près à la mi-parcours, quand nos deux personnages se parlent sur Facebook, ben c'est le vieux Facebook. Quand il se parle sur Skype, ben c'est le vieux Skype. La connexion est pas bonne, l'image est saccadée, les téléphones cellulaires datent de 10 ans. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir. T'sais, il aurait pu inventer un système de télécommunication XYZ. Puis, tu sais, bon, peut-être pour éviter de payer des droits aussi, je ne sais pas comment ça marche. Mais ça, sont vraiment allés recréer les interfaces de l'époque. Et je trouvais que ça venait vraiment intégrer le film dans le temps où ça se produit, dans la période temporelle où ça se produit. Puis je vais finir là-dessus, mais Le personnage principal a un MacBook Air. Là, je me dis, voyons, MacBook Air en 2012, ça se peut pas, mais je suis allé vérifier, puis c'est la première fois que c'est sorti, c'est en 2008. Alors, effectivement, c'est approprié pour l'époque, mais ça m'empêche pas, je veux pas crier au meurtre si dans un film qui est supposé se passer en 2015, il y a un téléphone qui est sorti en 2017, là. On va pas virer fou. Mais dans ce cas-là, je trouvais que c'était comme, okay, ils ont vraiment fait leur devoir, ils ont fait leur recherche historique-ish. Et donc, c'est un petit quelque chose de plus. Moi, c'est venu me conforter en me disant, ils ont bien travaillé.
Ça ajoute au réalisme. Voilà. Aussi, je l'ai dit plusieurs fois, vu que c'est inspiré d'une histoire vraie, de ce que la cinéaste a vécu, je trouve que, tu sais, quand tu résumais le film, tu disais, ah, ben, ou quand on disait que c'était pas ce qu'on s'attendait, qu'il y ait une première retrouvaille virtuelle après 12 ans, c'est que c'est comme, si c'est un film qui se passe dans les dernières décennies, c'est inévitable, parce que c'est ça, c'est souvent, à partir du moment que Facebook est arrivé, puis tout ça, tout le monde a eu un peu le réflexe de, retrouver les amis d'enfance ou les gens avec qui t'as grandi, tout ça. Donc, il y a un certain contact qui se fait, mais ça enlève rien à toutes ces années plus tard, quand tu te retrouves en personne, c'est beaucoup plus fort que juste voir une petite photo sur Facebook, là. Mais c'est ça, ça fait partie de nos réalités maintenant. T'sais, moi, je me souviens que, t'sais, je suis un peu plus vieux que toi, quand j'ai eu mes retrouvailles de 10 ans de l'école secondaire, de 10 ans après avoir eu notre diplôme d'école secondaire, tout le monde s'est retrouvé. Puis c'était vraiment spécial. T'es comme, waouh, OK, t'as changé. Non, t'as pas changé, blablabla. Puis maintenant, il me semble, moi, c'est dans mon cas, c'est arrivé juste avant que Facebook arrive. Donc, on n'avait vraiment jamais vu ces personnes-là depuis 10 ans. Tandis que maintenant, mettons, avec les réseaux sociaux, tout ça, souvent, tu perds plus vraiment tant de vues que ça, les gens, parce que tu les suis un peu à distance sur Facebook ou Instagram ou peu importe. Fait qu'il y a un côté un peu qui se perd un peu là-dessus, le côté... Le surprise, passé qui disparaît, là, il y a plus rien qui disparaît.
C'est drôle parce que moi, je ne ferai pas toute l'histoire de mon secondaire, mais on était un peu la promotion maudite. Il y avait eu en tout cas un lockout, je pense, quand on était en secondaire 2. Puis on était vraiment la promotion qui... Il y avait moins de monde parce qu'il y a des gens justement qui avaient quitté pour aller dans d'autres écoles parce que pendant, je pense, 2 semaines ou 3 semaines, il n'y avait pas de cours à l'école. Qu'on a eu une espèce de conventum officieux, il y avait la même séparation des « cool » de l'époque, entre guillemets, puis des « rejets » de l'époque, entre guillemets aussi. Et je te laisse deviner de quel côté je me trouvais.
Ouais. Alors, je te comprends, là, moi aussi.
Tu sais, je m'en
ai jamais été dans les « cool ».
Ouais, oui, mais tu sais, c'était organisé par un gars qui était devenu un DJ qui s'appelait King Louis. Tu sais, c'est ton nom de scène. C'est-à-dire un bar, une espèce de truc un peu suranné, un peu surfait du pouvoir Saint-Laurent. Puis bref, tu sais, je me dis des fois, bon, oui, peut-être que je m'ennuie de telle ou telle personne, mais ultimement, tu dis, si t'as pas gardé contact en 20 ans, en 25 ans, peut-être qu'il y a des bonnes raisons. Fait que ça peut être ça aussi, là. Généralement, en tout cas, moi, peut-être que c'est ton cas aussi, sans doute que oui. Les gens, c'est ça, avec qui t'as gardé contact, ben t'as gardé contact depuis ce temps-là, puis donc, peut-être, éventuellement, tu perds contact, mais bon, je peux te dire, il y a, mettons, un noyau de... 5 ou 6, peut-être même 7 personnes du secondaire qui me suivent. T'sais, bon, au cégep, à l'université, depuis l'université, on garde contact, on se voit relativement régulièrement. Mais bref, ça pour dire que... mais voilà, donc passe life, on va finir.
On parle de nos vies passées, c'est ça.
On parle de nos vies passées, exactement. Mais oui, c'est ça, le côté... Facebook, les pages et tout ça, puis ça, tu sais, c'est un peu moins, d'ailleurs, c'est un processus qui, dans le film, est plus compliqué, parce que, il y a aussi le fait que le personnage principal a changé de nom quand il est arrivé en Amérique du Nord, donc c'est peut-être plus compliqué à ce moment-là de retrouver avec son nom coréen, officiellement, elle s'appelle plus comme ça, donc je peux comprendre que, bon, le type qui passe par le père de du personnage féminin, bon, pour essayer de la trouver. Donc, je trouvais ça, c'était cute. Je trouvais ça cute, c'est une espèce de... Tu sais, aujourd'hui, encore une fois, tu le disais, tu dis, bon, ben, tu sais, demain matin, je disais, il me semble que ça fait 10 ans que j'ai pas parlé à Kevin Laforêt, on va juste chercher Kevin Laforêt sur Google, puis tu vas être là. Tu sais, t'aurais pas changé de nom pour t'appeler Prince ou une note de musique, là. Donc, c'est un peu, tu sais, il y a une certaine disparition, oui, mais je pense que c'est plus parce que ça arrête de nous intéresser simplement. Tu sais, autrement, on n'est pas dans là, changer de nom, changer de pays, mais moyennement que tu as Internet, on pourrait. Tu sais, tu me disais demain matin, ben, je m'en vais vivre en, je sais pas quoi, en Asie ou en Europe. Puis je dis, OK, ben, ça va être plus compliqué pour enregistrer, mais tu sais, on va quand même continuer à se parler, en tout cas, j'ose espérer. Donc, c'était vraiment comme une période technologique où c'était facile, mais en même temps pas facile. Puis clairement, bon, quand ils veulent se parler, lui est en Corée du Sud, elle est à New York. Côté décalage, c'est un peu moyen. J'ai déjà essayé d'organiser une entrevue pour un texte avec quelqu'un qui habite en Nouvelle-Zélande. Je peux te dire qu'il n'y a aucune heure qui est avantageuse pour personne. Je pense qu'il y avait 15 heures de décalage. C'était presque impossible. Enfin. Bon, ça serait pas une surprise pour personne. Est-ce que tu recommandes Past Lives?
Oui, je recommande fortement le film. On s'est un petit peu égaré dans nos souvenirs, tout ça, mais justement, c'est ça, en partie, la beauté du film. Je pense que c'est un film que ça peut créer des discussions ou même individuellement, si vous regardez ce film-là, après ça, vous allez repenser beaucoup à votre enfance, aux différentes périodes de votre vie. Puis c'est le fun des films comme ça qui créent plein de choses dans les émotions et les pensées et les souvenirs. Tu sais, c'est pas un film que tu regardes, ça finit, puis trois minutes après, tu penses à autre chose, t'es rendu sur Twitter. Tu sais, c'est vraiment un film qui reste avec nous. Moi, je l'ai regardé hier soir, puis tu sais, j'y pense encore aujourd'hui, puis je pense que je vais encore y penser pendant des semaines et des mois. Mm-hmm. Je pense que c'est vraiment un film marquant, là.
Oui, absolument. Pour moi aussi, bon, très forte recommandation. Je serais curieux, j'ai peut-être déjà mentionné au balado ou pas, mais bref, ma conjointe est d'origine argentine et je pense qu'elle aimerait ce film-là. Mm-hmm. C'est pas exactement le même contexte, mais effectivement, elle a des gens qu'elle connaissait là-bas, qu'elle a revu, avec qui elle a gardé un peu contact peut-être, mais très largement, bon, elle est arrivée ici il y a une trentaine d'années maintenant, au-delà d'une trentaine d'années. Donc, est-ce qu'elle serait plus touchée que, tu sais, moi, j'ai émigré de Villeray à Montréal-Nord, au plateau, tu sais, il y a pas, c'est pas des grands déracinements, là. Donc, je serais curieux de lui faire écouter le film, en tout cas, si ça l'intéresse, bien sûr, d'avoir son avis sur la question. Tu le mentionnais en début d'épisode, c'est encore à l'affiche au parc, et tu disais au cinéma moderne à Montréal.
Ouais, ben c'est ça, j'ai pas vérifié toutes les salles, okay. Mais j'ai vu qu'au cinéma du parc, il est toujours à l'affiche. Puis, il me semble qu'au cinéma moderne, tu sais, eux, ils ont un horaire qui passe les films, mettons, une fois par semaine ou un truc comme mm-hmm. ça. Fait que, il est encore à l'horaire, à l'occasion.
Bon, ben, je me suis dit, je vais aller voir les horaires pendant qu'on se parle, mais j'ai pas été assez rapide. Donc, ça sera votre devoir, chers auditeurs, si vous voulez écouter le film en salle. Ça sera à vous d'aller vérifier sur Internet. Autrement, évidemment, disponible en ligne, donc vidéo sur demande, Past Lives, donc un film de Céline Song, on espère une longue carrière, parce que, bon, évidemment, c'est un premier film qui frappe très, très fort. Semble-t-il qu'elle travaille déjà sur un autre projet qui s'appelle Matérialiste, pas de date de sortie encore de prévu, mais également, elle va encore une fois agir comme scénariste et réalisatrice, donc Past Lives. Un excellent film. Kevin, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui.
Merci à toi. Merci de t'être ouvert sur tous tes souvenirs.
Ben, écoute, ça fait... Je pense que... Je veux pas qu'on tombe... Tu sais, l'idée, c'est pas de tomber dans un peu le cliché du podcast entre humoristes, entre amis de gars, tu sais, qu'on parle de tout et n'importe quoi... Il y a une place pour ça, il y a un marché pour ça. C'est pas l'objectif de rembobinage, évidemment. Mais je pense que les gens, bon, d'abord, moi, je trouve ça le fun qu'on puisse échanger comme ça. Puis, je pense que peut-être pour nos auditeurs aussi, ça va prendre un peu d'où on vient. Qu'est-ce qu'on. C'est sûr que on arrive, on dit bon, le film est bon, le film est pas bon, merci, bonne journée. C'est un peu sec. Donc, rendu là, tu sais, puis c'est normal que quand on fait la critique d'un film, on s'appuie sur nos expériences personnelles, on s'appuie sur ce qu'on a vécu. C'est normal, c'est la job d'un critique, c'est à partir de ce que tu connais, tu détailles, tu t'élabores un point de vue personnel. Donc, évidemment, on ne va pas commencer à se compter des secrets nécessairement en ondes. Mais par contre, je pourrais vous dire comment la caramel qui est faite, mais ça, peut-être dans un épisode bonus, abonnez-vous. Non, c'est pas vrai.
Sur le Patreon, hein.
Voilà, sur Patreon. Non, blague à part. Tout ça, on parle de nos vies un peu, ça, en lien avec les films, évidemment, qu'on écoute. Puis voilà, ça nous fait toujours plaisir, bien entendu, de faire ça pour vous. Le prochain épisode, ça va être notre épisode bonus qui était disponible à faire, c'est donc un bonus au mois d'août. Gladiateur, si je ne me trompe pas, est-ce que c'est...
Oui.
Voilà. Gladiateur, j'essaie de ne pas perdre le fil, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en mêlent des fois, mais c'est ça. Donc, Gladiateur, c'est le prochain épisode.
Et d'ailleurs, je me souviens que dans l'épisode sur Gladiateur, tu t'ouvres beaucoup sur ton passé de gladiateur.
Oui. Je ne sais pas trop en parler parce que tu es des gens pour le sport, c'est toujours un peu difficile. Après le dixième, ça va. Après la dixième personne, ça devient plus facile. Non, on fait des farces. Mais effectivement, Gladiateur, ça s'en vient, donc prochain épisode. Et pour ceux qui ça intéresse, le prochain épisode... de bonus, voilà, sur Patreon pour le mois de septembre. Ça va être Days and Confused. C'est le 30e anniversaire du film Days and Confused cette année. Donc, voilà, ça ne nous rajeunit jamais. Hein. C'est vraiment...
Ben, c'est surtout que c'est un film qui est sorti en 93, qui se passait dans les années 70, donc 20 ans auparavant, et vu que c'est le 30e anniversaire du film, ça veut dire que 93, pour nous, en 2023, ça fait plus longtemps que les années 70, ça faisait en 93. Donc, le temps passe, le train ne s'arrête jamais.
Non, le train ne s'arrête jamais, effectivement. Ma barbe grisonne et tes cheveux un peu aussi. Mais ça fait partie de la vie, effectivement. Ça fait partie de la vie. Encore une fois, Kevin, merci beaucoup. Et merci à vous qui nous écoutez. J'allais dire religieusement, mais nous sommes un podcast athée, n'est-ce pas? Mais voilà, donc qui nous écoutez finalement. Pardon?
Athée et communiste.
Communiste, anarcho-syndicaliste de combat, comme on disait la dernière fois. Si vous voulez écouter les autres épisodes, d'ailleurs, pendant qu'on se parlait tout à l'heure, je suis allé vérifier, comme disons, on ne fait pas souvent des films asiatiques, sauf peut-être films de genre, Decision to Leave, qui n'est pas exactement le même scénario que Paslav, bien sûr, mais un peu dans le même style, un peu dans la subtilité, la finesse, les longs regards, lourds sous-entendus. C'est notre épisode du 10 novembre 2022, donc si ça vous intéresse, c'est votre genre de film, on vous invite à l'écouter celui-là. Si vous voulez écouter n'importe quel autre de nos 112 maintenant, 112, 113 épisodes de l'embobinage, tout ça c'est disponible bien sûr sur pieuvre.ca, on est également sur à peu près toutes les plateformes de podcast qui existent, sauf peut-être Google Podcast, parce que la censure de Google fait mal un petit peu de ce côté-là, mais sinon Apple, Spotify, on est un peu partout. Et en terminant, bien sûr, je vous invite à vous abonner à l'infolettre, je parlais de censure. On fait des farces des fois, mais c'est vrai, ça nous frappe, même si sur Facebook, ça ne nous frappe pas encore. Évitez que l'algorithme décide ce que vous pouvez voir ou pas. Abonnez-vous à l'infolettre. Vous avez tous les contenus, toutes les critiques, tous les épisodes de podcast. C'est gratuit. C'est moi qui vous l'envoie chaque samedi matin par courriel, bien sûr, je ne vais pas sonner chez vous. Donc, c'est ça. Sur le site de Pieuvre, il y a un formulaire à remplir. Ça prend 5 secondes. Et donc, vous avez ça tous les matins gratuitement dans votre boîte de réception. Sur ce, Kevin, je te dis merci et à bientôt.